Radio Pop.
Le journal. Les fosses communes au café central passent de 25 à 40, c'est ce qu'indique le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève et la police des Nations Unies. On fait le point dans ce journal. Rencontre du chef de la MONUSCO et le président de l'Assemblée nationale ce mercredi à Kinshasa. Les deux personnalités ont échangé sur les possibilités de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016. Également dans cette édition du journal, l'actualité étrangère, le dossier, le sport. L'invité de ce soir, c'est David Greffier. Il est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Madame, Monsieur, bonsoir. Le nombre de fosses communes dans le café central documenté est passé de 23 à 40. Un communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme daté de ce mercredi 19 avril le confirme. De plus amples détails avec Honoré Missenga Kalala.
Le communiqué parle de 17 nouvelles fosses communes dont l'existence a été confirmée lors d'une enquête menée dans la province du Kassai central entre les 5 et 7 avril dernier par une équipe du personnel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la police des Nations Unies. 15 de ces fosses communes se trouvent dans un cimetière de Timbulu et deux autres dans la localité de Tienke et qui remontent entre les 26 et 30 mars 2017. Les éléments de l'armée congolaise auraient tué 74 personnes, dont 30 enfants, lors des affrontements contre des présumés miliciens Kamuina Nsapu. En dehors de Timbulu, l'enquête porte aussi sur des faits qui se sont déroulés à Kananga, toujours pendant la même période. 40 personnes, dont 11 enfants et 12 femmes, également tuées par balles par les forces de l'armée congolaise dans la commune de Langanza. La plupart des victimes l'ayant été dans leur maison, selon les enquêteurs de l'ONU. D'autres faits mis à charge, cette fois des éléments de la police nationale congolaise, sont aussi rapportés dans la commune de Katoka, où un homme de 23 ans, un garçon de 17 ans et un bébé de mois ont aussi été tués.
En réaction, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement déclare, je le cite, « Le gouvernement congolais est conscient de cette situation. Il avait initié une enquête. Il faut attendre le résultat de cette enquête pour établir les responsabilités. » Les autorités angolaises affirment avoir renforcé les effectifs de policiers à leur frontière nord où se concentre un nombre important des réfugiés. Ces derniers fuient les violences dans la province congolaise du Kasaï en RDC. Selon le commandant en chef de la police angolaise, son pays a intensifié les patrouilles à la frontière avec la RDC afin d'éviter que des groupes armés ne pénètrent sur le territoire angolais. Des affrontements qui opposent depuis 6 mois les forces de l'ordre de la RDC aux milices de Kamuina Nsapu ont causé un afflux de réfugiés vers l'Angola voisin. L'administrateur assistant du territoire de Sakania se dit préoccupé par le nombre croissant d'enfants enlevés et amenés dans son entité. Zachary Kilongé cite les cas de 2 enfants mineurs enlevés au début du mois d'avril par des inconnus. Ces 2 mineurs ont été retrouvés le lundi et ramenés par le bureau de service gens, familles et enfants de Kasumbalesa. Près de 10 autres ne sont pas encore retrouvés. Zachary Kilongé appelle ses administrés à signaler tout cas de disparition constatés dans leur milieu. Entre-temps, les mobiles de ces enlèvements ne sont pas encore connus et leurs ravisseurs courent toujours avec d'autres enfants. Le récit des faits avec Noé Kabena.
Ces 2 enfants ont été retrouvés par des passants, complètement essoufflés. Le premier a 17 ans, il vient de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami. Disparu depuis le 30 mars, il était encore bouleversé qu'il n'a pas su expliquer les circonstances de son enlèvement. Le second est une fille de 12 ans qui habitait la commune Rouachi, à Lubumbashi. 2 femmes l'ont enlevée depuis le 6 avril. Elle est restée au quartier Golf, gardée par des hommes en armes. Elle était avec 10 enfants, dont les tout petits qui gardaient sur eux leur tablier de l'école maternelle. C'est le samedi que leurs ravisseurs les ont amenés de Lubumbashi vers Kasumbalesa, puis ils sont sortis de la grande route pour se retrouver en brousse où ils se sont arrêtés pendant 2 heures. Ces ravisseurs ont pris tous les garçons et les ont ramenés à une destination inconnue. Restée seule, elle s'est échappée en courant toute la nuit jusqu'à l'entrée du village Kasumbalesa. Information livrée par le bureau Jean de la cité de Kasumbalesa. Informé, l'administrateur du territoire de Sakania qui gère aussi la cité de Kasumbalesa appelle les parents à la vigilance et les invite à dénoncer tout cas de disparition d'enfants. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a rencontré ce mercredi à Kinshasa le président de l'Assemblée nationale. Ces échanges entre Maman Sidiko et Aubin Minako s'inscrivent dans le cadre des bons offices confiés à la MONUSCO par la résolution 2348 du Conseil de sécurité. Ils ont principalement échangé sur les possibilités de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016 pour amener sans tarder le pays aux élections. On écoute Maman Sidiko au micro de Michel Kifindangoy.
Notre objectif à nous tous, c'est d'aller vers les élections dans ce pays. Évidemment, il faut le faire dans le cadre de l'accord qui a été conclu le 31 décembre. Moi, j'ai une mission de bons offices qui m'a été confiée par une résolution bien claire du Conseil de sécurité. Donc, je fais le tour pour parler aux uns et aux autres, pour prendre les points de vue et voir comment nous pouvons aider à ce que les choses se passent bien pour aller effectivement vers les élections. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est ça l'objectif ultime. J'ai dit au président de l'Assemblée que le secrétaire général des Nations Unies travaille en étroite collaboration sur la question du Congo avec l'Union africaine. Et vous savez que nous avons en ce moment en ville à Kinshasa la Troïka de la SADC qui vient aussi dans le même cadre. Et nous sommes en consultation. Autant dire que nos bons offices sont aussi renforcés par les bons offices de la région, l'Union africaine et finalement du secrétaire général lui-même. En conclusion, je dirais que j'ai été encouragé parce que j'ai entendu le président de l'Assemblée me dire « Continuez vos bons offices, parlez à tout le monde et essayons de voir où nous pouvons trouver des formules pour avancer. » Je ne veux pas en dire plus. J'ai compris maintenant qu'il faut que je retourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Quand on fait ce genre de travail, on le fait le plus discrètement possible d'abord et ensuite on rencontre.
Et puis dans l'actualité, disons également que la MONUSCO vient de clôturer le déploiement du matériel électoral à travers le pays, tel que l'avait sollicité la CENI. La dernière rotation est intervenue ce mercredi 19 avril avec un dernier lot des kits destinés au territoire de Kasongulunda dans la province de Kwango. Florence Marchal l'a annoncé au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa et donné le bilan global de ce déploiement. Les propos de la coordinatrice de communication du système onusien en RDC, sélectionné par Honoré Missinga Kalala.
Au moment où je vous parle, un hélicoptère effectue une dernière rotation entre Kinshasa et Kasongo-Lunda dans la province du Kwango, ce qui clôture les opérations aériennes de la MONUSCO en soutien à la révision du fichier électoral actuellement en cours dans le pays. Au total, ce sont près de 3900 tonnes de matériel composé de kits bureautiques, kits d'enregistrement, cartes d'électeurs et générateurs qui ont été transportés entre le 28 octobre 2016 et aujourd'hui par 4 avions cargo affrétés spécialement pour l'occasion par la MONUSCO ainsi que 16 hélicoptères. En réponse à une requête formulée par la CENI en décembre 2015, il était prévu que la MONUSCO assure le transport aérien du matériel de révision du fichier depuis Kinshasa vers 15 centres et 107 antennes particulièrement difficiles d'accès. C'est donc chose faite.
Dans le secteur de transport, notez que l'importation des véhicules vieux de plus de 10 ans est autorisée en RDC. Un décret signé le 4 avril dernier par le Premier ministre sortant Sami Badibanga, contresigné par le vice-premier ministre des Transports José Makila, le ministre d'État et ministre de l'Économie Modeste Bahati, le ministre des Finances Henri Yav et le ministre du Commerce extérieur Aimé Bouji, fixent l'âge maximal des véhicules d'occasion à importer à 20 ans. Contrairement au décret de Matata de 2012 qui fixait cet âge à 10 ans. Mais quelles sont les raisons qui ont poussé Sami Badibanga à modifier le décret de Matata Ponyo? Écoutez la réponse de José Makila, vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, interrogé par Innocent Linga.
Il se fait que certains véhicules de moins de 10 ans ne savent pas rouler dans certains coins de la République. Nous prenons par exemple les véhicules qui sont faits sur base d'électronique, ne peuvent pas rouler sur des routes à terre. Vous voyez une ville comme Boma, Matadi, Kassindi, vers l'Est, il n'y a plus d'activité. L'État n'est pas là pour pénaliser sa population. L'État est là pour aider la population à subvenir à ses besoins. Et il est vrai que cette mesure pourra en quelque sorte booster aussi notre économie dans ce secteur de transport. Mais nous avons entouré ces décrets avec plusieurs mesures, c'est-à-dire le contrôle technique qui doit d'abord préalablement être fait au niveau du pays importateur. Il y aura une agence qui va s'occuper de tous les véhicules qui viennent en République démocratique du Congo pour voir si réellement ces véhicules sont conformes aux normes de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le contrôle technique.
Direction Nord Kivu, la première lampe de la microcentrale hydroélectrique qui va alimenter le chef-lieu du territoire du Massissa a été officiellement allumée hier mardi. Cette mini-centrale est construite par le PNUD avec 80% de financement du gouvernement sud-coréen. Sa construction entre dans le cadre du projet de relèvement communautaire et la consolidation de la paix dans cette entité. Un reportage de Bernardin Nyangui.
La mini-centrale d'une puissance moyenne de 250 kW est construite sur la rivière Wau avec le financement d'environ 530 000 dollars américains, dont 330 000 de la Corée du Sud et 100 000 dollars financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. La société civile de Massissi pense que cette énergie sera un autre facteur d'unité des résolutions des conflits interethniques dans la zone. Gisèle Bahati.
L'électrification de notre cité va contribuer à la cohabitation pacifique entre les communautés.
Le territoire de Massissi vient effectivement de traverser une longue période d'instabilité sécuritaire qui a impacté négativement ses infrastructures de développement. L'ambassadeur de la République sud-coréenne en RDC estime de son côté que le courant électrique produit pourrait tant soit peu soulager le peuple de Massissi Centre. Kichang Kwan.
Il y avait des besoins qu'on a pu étudier avec la CNUD et on a réalisé qu'un projet d'électrification apporterait le bien-être à la population de Massissi.
C'est alors que c'est pour la première fois que les 40 000 habitants de Massissi Centre vont bénéficier de cette énergie propre. La distribution ne pourrait intervenir que dans un ou deux prochains mois après la fin des travaux de transport, a dit le vice-gouverneur Feller Luta Ichiroa. Goma, Bernardin Yangui, Radio Kapi.
Et puis, en santé, 210 personnes sont mortes de tuberculose sur environ 4000 cas enregistrés en 2016 en Ituri. Des chiffres relevés et révélés hier mardi par le médecin chef de division provinciale de la santé en Ituri. C'était en marge de la journée de lutte contre la tuberculose, journée commémorée le 24 mars de chaque année, mais à Bounia, la cérémonie officielle n'a eu lieu qu'hier mardi. Selon le ministre provincial de la santé, cette situation est due au faible taux de dépistage de cette maladie dans la plupart des zones de santé et aussi l'interruption ou l'abandon de traitement par certains patients. Il interpelle les autorités sanitaires et les communautés locales à multiplier les efforts pour éradiquer cette maladie dont le traitement est gratuit. Docteur Makusi Bourar est au micro des éleveurs Waïsala.
J'invite les professionnels de santé et les partenaires impliqués dans la lutte contre la tuberculose à unir leurs efforts pour améliorer le dépistage et la prise en charge de la tuberculose, particulièrement chez nos enfants, afin de mettre fin à cette maladie dans notre pays et particulièrement dans notre province de l'Ituri. Pour ce faire, des actions innovantes et pérennes doivent être renforcées et poursuivies pour doter nos structures de moyens de diagnostic plus rapides et fiables. Aujourd'hui, les capacités opérationnelles du Programme national de lutte contre la tuberculose ont été améliorées et le traitement est gratuit sur toute l'étendue du territoire national.
Des sources médicales renseignent que parmi les cas enregistrés, les zones minières sont les plus affectées par la tuberculose à cause notamment de la forte promiscuité dans ces milieux. Il s'agit notamment de Mongwalou, Nizi et Bambou en territoire de Djougou ainsi qu'à Nyanya en territoire de Mambasa. Santé toujours dans le sud de Bangui, ce mois d'avril, c'est la campagne de dépistage volontaire au VIH-Sida. Cette campagne est organisée par les ONG Cordée, des CDI Boamanda, avec l'appui financier de l'ONG internationale Vision Mondiale. Dans un premier temps, ce sont des enseignants, des policiers, des militaires, prêtres et pasteurs qui sont ciblés avant la campagne de masse qui sera organisée ultérieurement. Des précisions avec Dominique Wolombi.
Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'objectif de l'OMS d'arriver à zéro cas de VIH et SIDA à 2030, d'après Dr Delphé Badianga, chargé de suivi et évaluation de lutte contre le SIDA au CDI Boamanda. Elle consiste à augmenter le taux de VIH et SIDA qui est actuellement de 10% pour l'ensemble de la province sanitaire du sud de Bangui. Les ONG Cordaide et CDI Boamanda ont choisi comme cible pour ce dépistage volontaire les enseignants, les policiers et militaires, ainsi que les prêtres et pasteurs. Ces stratégies, indique Dr Delphé Badianga, a pour but d'apporter l'information aux autres couches de la population qui fréquentent les groupes ciblés. Aux pasteurs des églises de réveil, il leur est demandé de référer les malades du sida directement aux structures de santé plutôt que de les soumettre aux séances interminables des prières. Mardi, c'était les enseignants de la zone de santé de Guémena qui se sont fait dépister volontairement au VIH. Ce mercredi, c'est les tours des policiers et militaires. Et jeudi, ce sont les prêtres et pasteurs qui passeront à l'épreuve. Mbandaka, Dominique Olambi Mongapangé, Radio Okapi.
Et puis, cette information en rapport avec les obsèques d'Étienne Tshisekedi, Monseigneur Gérard Moulumba, petit frère du défunt, affirme que la famille va fixer l'opinion à ce sujet d'ici le week-end.
Actualité Afrique Monde.
Commençons par le Niger. Après des manifestations qui ont fait à mort la semaine dernière, le boycott des cours par les étudiants en colère, le ministre de l'enseignement supérieur a été remplacé ce mercredi. Un remaniement technique, disent les autorités. Il s'agit en fait d'un échange de portefeuille entre Mohamed Ben Omar et désormais ex-ministre de l'emploi, Yaoussa Sadissou. En Inde, 44 personnes ont péri mercredi dans un accident de bus en Inde, dans l'état montagneux d'Himachal Pradesh, dans le nord du pays, a indiqué l'AFP, un responsable local. Un bus transportant 46 personnes et en provenance de l'état voisin de l'Uttarakhand est tombé d'une falaise et s'est abîmé dans un cours d'eau. Selon le témoignage d'un des survivants rapporté par les médias locaux, le chauffeur s'était inquiété auprès des passagers d'un problème avec une suspension. Et puis pour terminer, au moins 11 personnes sont mortes et 20 ont disparu ce mercredi en Colombie lors de glissements de terrain dus à de fortes pluies à Manizales. Le premier bilan diffusé en début de matinée faisait état de 8 morts. Cette nouvelle catastrophe naturelle intervient après le torrent de boue qui a détruit le 31 mars la ville de Mocoa dans le sud de la Colombie, faisant 323 morts et 103 disparus. Et c'est tout pour l'actualité internationale. Merci de rester sur Okapi. Revenons en RDC et rendons-nous dans la province de la Tshopo, où les opérateurs économiques de Kisangani dénoncent la majoration de la taxe provinciale des marchandises publiée par le ministère provincial des Finances au début de ce mois d'avril. Une majoration, selon eux, effectuée de façon unilatérale et non sanctionnée par un arrêté de l'autorité provinciale. Qu'est-ce qui justifie la majoration de cette taxe? Quels sont les biens concernés par cette majoration et comment l'Assemblée provinciale apprécie-t-elle cette mesure du ministère provincial des Finances? Les explications dans notre dossier de ce soir avec Anselme Massois.
Bientôt 3 semaines depuis que la régie financière des recettes de la Tshopo, RPRT, applique cette nouvelle taxation des marchandises. Pour les opérateurs économiques, cette taxation ne peut être approuvée car n'ayant pas suivi le schéma traditionnel et reconnu pour son élaboration. Ponle Kisuba, conseiller à la FEC et Tshopo.
En principe, ça doit être promulgué par un arrêté. Mais jusque-là, il n'y a pas eu d'arrêté du gouverneur. Il y a eu seulement une nomenclature de taxes signée par les ministres de Finances de la province. Cela sans concertation préalable, ni des députés, ni même de l'opérateur économique.
La majorité des biens concernés par cette majoration ont subi le double de la taxation contenue dans l'ancienne nomenclature des taxes telle que le déclare le conseiller de la FEC Tshopo. Paulin Kisuba, une fois de plus.
Avant, la bière était à 3,3% et aujourd'hui, il est passé à 5%. Le sucre local, qui était à 2,2% du prix, s'est passé maintenant à 0,4 $ par sac de 50 kilos. L'alcool de spiritueux de 2,2% à 4%.
Pour le directeur provincial de la RPRT, il ne s'agit pas d'une majoration de la taxe provinciale des marchandises, mais du réajustement du taux de taxation. Patrick Matatama Kalamba.
À ma connaissance, tous les matériaux de construction n'ont pas connu une révision à la hausse des taux. Cependant, les ciments seulement a connu une taxation. Parce que parmi les droits de consommation des produits fabriqués localement, il y a la bière, il y a le sucre, il y a les ciments. Et les ciments, à un moment donné, nous avions fixé à taux zéro. Pour le moment, on est passé à 3%, donc nous sommes encore moins chers. Les autres biens, parce qu'on utilisait une nomenclature de 2013-2014 à l'époque de la province orientale, les autres biens ont connu peut-être un ajustement par rapport au taux de change. Tout simplement. Donc c'est un glissement par rapport au taux de change qu'on enregistre.
L'organe délibérant de la Tshopo invite le gouvernement provincial à discuter avec les opérateurs économiques afin de trouver un terrain d'attente. Soleil Mosindo, président intérimaire de l'Assemblée provinciale de la Tshopo.
Nous voulons
bien que les autorités puissent avoir les moyens de faire leur politique pour que les choses aillent de l'avant. J'estime qu'il est grand temps que les autorités provinciales puissent privilégier le dialogue avec les commerçants pour que ces derniers comprennent au moins qu'est-ce qu'ils vont payer, sur base de quoi ils vont payer, afin que la province, notre régie, puisse trouver les moyens pour mettre à la disposition de la province pour son développement.
Le directeur provincial de la RPRT appelle cependant les opérateurs économiques non satisfaits de cette mesure du ministère des Finances de passer à son bureau, déposer leurs inquiétudes et propositions. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
L'invité. Mardi 18 avril dernier à Munigi, 10 km au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, quelques staffs de la MONUSCO, 11 Congolais et 2 expatriés, dont le chef de DD3R de la MONUSCO Nord Kivu et un représentant de la commission d'Amnesty de l'Ouganda, ont été séquestrés pendant plusieurs heures par des rebelles sud-soudanais cantonnés sur place. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est rendu à Munigi en vue de calmer la tension. Après discussion, ces ex-rebelles ont finalement accepté de libérer les 13 des personnes séquestrées qu'ils gardaient. Pour en savoir plus, David Gresslin a été reçu par Gisèle Cage. Suivez cette interview.
Monsieur le représentant spécial adjoint, hier, il y a les rebelles sud-soudanais qui sont cantonnés au camp de Munigi, qui ont séquestré pendant plusieurs heures le staff DDR de la MONUSCO. Vous avez été sur place, vous avez parlé avec eux. Pouvons-nous d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Oui, en fait, je crois qu'il y a une certaine frustration parce que ce groupe est dans ce camp depuis quelques mois, en fait 8 mois maintenant, et ils ont demandé pourquoi ils doivent continuer de rester dans le camp. Et pendant cette discussion, ils ont bloqué certains de notre personnel de quitter le camp. Donc, au lieu de faire quelque chose, de forcer les choses, on a décidé de continuer les discussions pour trouver une solution pacifique à cette situation. Il n'y avait pas de violence pendant toute cette période. Donc, on a eu des longues discussions avec ceux, ce n'était pas tout le monde, en fait, c'était une minorité qui était dans ces discussions. Et à la fin, ils ont accepté qu'on peut continuer de rechercher des solutions pour leur départ définitif. Ils ont stoppé leur action de bloquer notre staff. Notre staff est parti, je crois que c'était vers 23h hier soir que ça s'est passé. Donc, à la fin, tout s'est passé sans violence et maintenant le camp est bien sécurisé par notre force et aussi tout est calme dans le camp. Ce qu'on va faire maintenant, on va revenir pour continuer ces discussions pour, comme j'ai expliqué, ces individus. On doit trouver des solutions pour chaque personne qui est là pour qu'ils puissent quitter le pays, soit de rentrer chez eux ou de partir vers un pays tiers. Déjà, certains ont accepté d'aller à Djouba. Ils sont partis il y a quelques jours. Et aussi d'autres sont partis pour aller au Kenya. Donc, on va continuer de rechercher les solutions pour tout le monde. Donc, je crois que, comme je disais, avec cette situation qui est beaucoup plus calme maintenant, on va continuer notre travail.
Ça peut prendre combien de temps ce processus? Parce que vous dites déjà, il y a ceux-là qui sont rentrés dans leur pays, il y a d'autres qui ont préféré carrément aller dans d'autres pays d'asile. Alors, ça va prendre combien de temps ce processus-là?
C'est difficile à dire parce que je crois pour chaque personne, ça peut varier à le temps, je veux dire. Quelques semaines, même peut-être plus. Donc, on doit être patient, je crois. Mais petit à petit, je crois qu'on va trouver des solutions pour tout le monde pour qu'ils puissent quitter. Ce qui est essentiel pour ces Sud-Soudanais, mais aussi le public ici au Congo et surtout à Goma, notre travail va continuer de trouver ces solutions. On a eu un bon appui avec le gouvernement, comme on a vu vendredi passé avec le départ définitif de ces 8 personnes. Donc, ça va prendre du temps. Mais je crois bien à la fin, on va réussir et tout le monde va quitter le pays.
Mais en attendant, qu'est-ce que la MONUSCO a prévu pour notamment sécuriser le staff? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident arrive. Par le passé aussi, il y a certains agents de la MONUSCO qui ont été séquestrés par ce même combattant. Est-ce qu'il y a des mesures que vous avez prises, par exemple?
Well, en fait, nous sommes souvent dans une telle situation. On ne veut pas provoquer la violence. Et comme je disais, il n'y avait pas de violence hier soir. ils ont bloqué le mouvement de notre personnel pendant ces discussions. Mais en tout cas, nous avons un fort dispositif qui est là dans le camp pour protéger tout le monde, y compris la communauté autour de ce camp. Donc, on va continuer avec le dispositif qu'on a. Ça va continuer comme dans le passé. Et comme on a vu hier, à la fin, tout a été réglé. Donc, on veut plutôt utiliser les discussions pour résoudre ce genre de problème au lieu d'utiliser la force.
Monsieur David Chrisley, je vous remercie.
Merci bien.
C'était là l'invité de ce soir, David Chrisley. Il est représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Tout de suite, le sport. À la présentation de Nambala, bonsoir.
Bonsoir Bibi Munkonkole, bonsoir amis sportifs. Nous commençons par ce grand match qui se jouera demain jeudi au stade de Martyrs de Kinshasa entre Renaissance du Congo et Mazembe. Ce match sera officié par Jean-Pierre Kabangou de la Ligue du football du Kasaï Oriental. À cet effet, les deux équipes se préparent. Les Oranges se sont réfugiés au centre technique national Coureur en Pova, l'extrême est de la capitale, où l'accès n'est pas permis à la presse. Mais Mazembe, de son côté, a choisi le stade de Martyrs. Pamphile Miao, nouvel entraîneur de Corbeau, s'est entraîné en ce moment même avec ce joueur. Il est au micro de Nok Matondo.
Le côté de Kindu, ça s'est déjà passé. Demain, ça fera un autre match. Donc, nous sommes vraiment concentrés et nous nous préparons pour le reste.
Dans tout ce qu'on fait, je vois qu'il y a du sérieux et puis on va amener cette équipe au plus haut niveau.
Suite du championnat, écoute.
Oui, le championnat continue. Demain, c'est un match de la Ligue de foot. Donc, comme j'ai dit auparavant, donc nous nous sommes préparés pour ça. Donc, et après, par la suite, par rapport à la CAF, et on va se préparer aussi pour ça, pour pouvoir faire mieux pour la suite.
Quand on parle de la suite du championnat, c'est-à-dire après Renaissance, vous avez Sangabalindé, il y a 20 clubs qui vous attendent.
Pareil. Vous savez que ça, c'est le championnat d'élite, c'est la Lina Foot. Donc, toutes les équipes qui sont dans ce championnat, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas d'avantage à donner à une telle ou une. Donc, nous sommes tous au même pied d'égalité. Tout se joue sur le terrain, c'est là où la différence se fait voir.
Renaissance compte 4 points de sortie et Mazembe un seul point à une sortie. Nous écoutons à présent Enoch Matondo nous parler de ces deux matchs. De ces deux équipes.
La crème des joueurs du tout puissant Mazembe qui est à Kinshasa pour ce match. Sur la roulette de Miyayo Kazembe, toute l'équipe s'est entraînée au stade des Martyrs de la Pentecôte à l'heure du match. Pour tout trésor, Issama et les autres ne jurent que sur la victoire. De l'autre côté, le FC Renaissance du Congo, néophyte dans la compétition, dit venir découvrir la phase des playoffs. En 2 ans et demi, le FC Renaissance du Congo flirte désormais avec les grandes formations. Depuis le stade des Martyrs de la Pentecôte, Enoch Matondo pour Okapi Sport.
On se retrouve dans 30 minutes pour d'autres nouvelles sportives.
Merci à vous Nana Mbala. Et puis concernant le taux de change, ce mercredi 19 avril 2017, le dollar américain s'achète à 1360 francs congolais et se vend à 1415 francs congolais au taux indicatif de la Banque centrale du Congo. Avant de terminer cette édition du journal, sachez que l'actualité est marquée par le nombre de fosses communes au Kasaï central qui passe de 25 à 40. C'est ce qu'indique le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève et la police des Nations Unies. Et puis cette rencontre du chef de la MONUSCO et le président de l'Assemblée nationale ce mercredi à Kinshasa, les deux personnalités ont échangé sur les possibilités de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016. C'est pas ainsi que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.